Bon, ben ça tombe bien pour présenter le sujet de notre ami Ray, parce que c'est toi qui me disais ça, que l'agent de Gallagher avait laissé entendre mardi soir que les négos étaient rompus, là.
C'est ça. Et mardi soir, en fait, c'est mardi dans la journée
qu'il
a fait cette confidence-là à un journaliste. Et là, il l'a dit hier, quand on a annoncé que les deux parties en étaient venues à une entente. Il dit, mardi soir, on nous a rappelé, on a négocié hier, mais il dit, il y a eu un malentendu et il a pris la responsabilité du malentendu en disant, c'est de ma faute, là, si on s'est mal compris.
OK, bien, parle-nous, Ray, de la business des agents comme ça, d'athlètes.
Les agents travaillent dans l'ombre. Ils sont à l'arrière-scène, ils sont un peu invisibles, mais ils sont très importants puis critiques dans cette opération-là. Puis de cette façon-ci, on a vu qu'il a tout de suite sauté pour prendre un peu la responsabilité. Les athlètes aujourd'hui, comme les artistes, comme les musiciens, comme les acteurs, comédiens, comme les gens d'affaires, ont besoin de représentation. Ils ont besoin d'aide pour être accompagnés dans leur gestion de carrière. Alors, être agent aujourd'hui, ça a l'expression de beaucoup de prestige puis de glamour. Tu penses que être agent, ça veut dire que tu représentes des athlètes millionnaires puis tu vas faire beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de travail qui va derrière ça. Fait que je voulais l'aborder sous deux angles. Aujourd'hui, en parler en surface, puis demain, rentrer dans les détails un peu. Être un agent, ça demande forcément une éducation importante à l'université, un bac minimum, puis probablement deux options tout de suite après. Soit aller en MBA, soit devenir avocat. Parce que la plupart des agents aujourd'hui ont un grand rôle légal pour négocier les contrats. Puis si c'est pas eux-mêmes, bien, ça va être leur intermédiaire juste à côté, leur lieutenant, si on veut. Donc, la plupart des jeunes aujourd'hui qui percent dans ce marché-là ont besoin d'une éducation en droit ou en business. L'autre chose, on parle de hockey uniquement là pour aujourd'hui. Faut que tu saches que tu vas avoir un long chemin de 10-15 ans avant d'arriver à quelque chose qui est vraiment imposant comme écurie, comme portfolio. Ça veut dire qu'il faut que tu sois dans les arénas à courir et à épier les jeunes tous les soirs. Puis il faut que tu détectes le talent. Puis il faut que tu sois capable d'aller recruter, convertir, vendre aux parents particulièrement. Puis il y a un énorme intérêt chez les jeunes travailleurs de devenir agent. Mais dans le hockey, Paul, Alain, il y a 750 joueurs. Puis il y a 150 agents certifiés dans la Ligue nationale de hockey. Puis dans les 150...
Quand, juste une parenthèse, quand tu dis certifié, là, comment tu deviens certifié?
Bon, la NFL est la plus exigeante des ligues. Puis c'est toujours fait en collaboration avec l'Association des joueurs. Pour la NFL, tu dois passer un gros examen de certification avant d'être approuvé par l'Association des joueurs. Pour les trois autres ligues, il suffit que tu sois approuvé après ta demande auprès de la Ligue puis l'association et que tu aies un client minimum. Mais tu n'as pas besoin d'être certifié comme avec un examen réussi.
Okay.
Mais tu dois quand même être autorisé et certifié par la Ligue. Donc, tout le monde ne peut pas, juste parce qu'ils sont avocats, devenir un représentant d'un joueur. Il faut que tu en fasses ta demande auprès de la Ligue. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu prends les 750 joueurs, les 3-4 plus grosses agences ou agents là, détiennent à peu près 300 joueurs.
Oui, OK.
Fait qu'il reste 450 joueurs pour à peu près 140 agents. Fait que ça fait une moyenne d'à peu près 3 agents quelques, puis avec 3 joueurs quelques par agent. Puis ça veut dire que ça va être difficile de gagner ta vie avec 3 athlètes, parce que ça suffira pas. Normalement, un agent reçoit autour de 3-4% en commission. Puis, comme on en parlait Alain et moi plus tôt, les premiers contrats des jeunes recrues sont déjà en place, négociés par la convention collective. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour négocier des plus grosses ententes parce que tu es une jeune recrue. Ça vient plus tard dans ta carrière, là aussi, l'opportunité d'avoir des gros salaires et des gros contrats comme celui de Gallagher.
Mais je t'ai déjà parlé du conflit d'intérêts potentiel. Si je représente 10 joueurs, mettons 2 dans la même équipe, c'est qui je vais favoriser, puis c'est quoi ma relation avec le directeur gérant avec qui je négocie?
C'est une bonne question. On va en parler en détail demain, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça commence d'abord avec une relation de confiance, de respect entre le dirigeant, c'est-à-dire le directeur gérant, et l'agent. Donc, forcément, ça joue un rôle. Puis il y a effectivement une influence énorme entre un agent et le directeur gérant pour avoir des
deals. Pat Brisson, Marc Bergevin, on parle beaucoup de la relation qui les unit, ces deux-là.
Absolument, absolument. Puis c'est vraiment important de ce côté-là. Puis ce que je veux juste dire pour terminer, c'est que rappelez-vous du film là, de Tom Cruise, Jerry Maguire. Avec lui, tu sais, il avait trouvé un jeune talent pour être repêché par la NFL. Puis le jour du repêchage, littéralement, il s'est fait arnaquer. Puis il y a un gros agent qui est venu comme un requin, puis il lui a volé son client. Ça existe dans cette industrie-là. C'est très dur pour un jeune de mettre la main, parce que c'est pas que tu vas pas le développer au fil de ses jeunes années, le bantam midget, mais quand il devient prêt. Ah ben là, l'autre saute sur la proie comme un prédateur, puis il va te l'enlever. Alors, c'est très difficile de naviguer dans cet univers-là. Mais je termine en disant que c'est important, ça, pour les gens dans toute leur carrière, d'avoir une certaine forme de représentation puis d'intermédiaire qui les conseille et les guide vers leur choix de carrière d'avenir.
Merci, Ray. On se reparle demain, 8h35. La 20, monsieur.